Jour 2, scène 3, le trio infernal, écrit et présenté par Darcy Lacerte. Une pente abrupte, une descente vertigineuse au milieu de cailloux instables, puis un pont de bois étroit et brisé qui enjambe un ruisseau. Soudain, Louis-Philippe s'arrête net. Il reste figé devant un grand édifice abandonné, le cœur serré par la tristesse. Durant toute son enfance, son père lui a raconté les belles vacances passées à la Kezia. Ce camp de vacances était mémorable pour tous les jeunes de la région. Les activités y étaient innombrables, randonnées à vélo dans les sentiers. Excursions sur toutes sortes d'embarcations, escalades. Sans oublier la vue extraordinaire au sommet de la falaise. Et pour les plus courageux, ce saut de plusieurs mètres avant de plonger dans le lac. C'est tellement triste de voir ça, souffle Jacob Adam à l'oreille de son cousin. C'est comme si les souvenirs de ma mère et ceux de ton père s'étaient volatilisés. Heureusement qu'il nous reste les photos et les vidéos de grand-père, répond Louis-Philippe, que mon père a gentiment numérisé, n'a dit Jacob Adam. Ce doit être tellement émouvant de voir vos parents lorsqu'ils étaient enfants, intervint Cassejo, des jumeaux inséparables. Et d'après ce que je vois, leur lien n'a jamais été détruit par les années. Tout comme nous, mon frère de cœur, dit Jacob Adam, ému en tapotant l'épaule de Cassejo. Les fantômes du passé viennent nous narguer ce matin, murmure Louis-Philippe, les larmes aux yeux. De quoi tu parles, Lou? Le vent d'aujourd'hui est glacial, presque agressif. Je pense que ce n'était pas une bonne idée de venir ici. Ce n'est pas la voix de supposé spectre caché dans les bois qui m'effraie, pavot-il. C'est juste que cette vision me sape le moral. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cet entrepreneur passionné qui a construit tout ce domaine. Par chance, M. Parento ne verra jamais l'état lamentable de ce qu'il avait réussi à bâtir. Sa triste Cassejo, la Kezia, était reconnue comme un endroit merveilleux pour les jeunes et les amateurs de pêche. Une simple rumeur a détruit son rêve et sa passion. Il semblerait que cet homme ait tout bonnement disparu, l'ajoute Jacob Adam. Oui. J'ai entendu les anciens dire qu'il a osé traverser la forêt pour affronter le mangeur d'hommes, hoche Louis-Philippe, sans nouvelles de lui. Et comme personne n'a jamais revu ses réalisations, les gens sont persuadés qu'il est décédé. Partons d'ici, s'il vous plaît. Sur ces mots, le trio quitte les lieux sans se retourner, bien décédé à laisser sa mélancolie derrière lui. Caché dans les buissons, Akira a tout entendu. Il retient surtout une chose, c'est qu'Alav feront de parfaits alliés lorsque le moment sera venu d'effectuer un sauvetage confiant. Le jeune garçon de 11 ans quitte sa cachette. Il doit rentrer chez lui. Il s'est déjà trop éloigné de Madeline et de Jennifer, son plan se dessine peu à peu. Il ne lui reste qu'à espérer que les filles ne partiront pas pendant son absence. Et cela les temera, elles attendront sûrement l'aube pour quitter le village en sif. Akira reprend le chemin de sa maison. Vers 16h, Madeline rentre joyeusement chez elle. Elle est si heureuse qu'elle ne remarque même pas Sarakim et Jadiane qui s'approchent d'elle. Les deux adolescentes ne lui prêtent d'ailleurs aucune attention lorsqu'elles se croisent. Madeline arbore un sourire radieux, comblé par le déroulement de sa journée de préparation. Son bonheur est d'autant plus grand que Sarakim et Jadiane l'ont royalement ignoré. Néanmoins, Madeline a-t-elle pris le temps d'apercevoir Akira? Est-elle seulement consciente qu'il a tout vu et tout compris? De son côté, c'est au jeune espion d'être vigilant et de surveiller constamment les filles. Car le jour du grand départ approche à grands pas.